D'abord, Glenn, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci, ça fait plaisir.
Le Super Bowl s'en vient. Le Super Bowl va opposer deux entraîneurs avec un parcours totalement différent. Débutons avec Bill Belichick. En quoi il faut être admiratif envers M. Belichick?
Beaucoup de choses. Je pense que c'est un bon coach, mais c'est un très bon... C'est un bon gérant, c'est un bon administrateur de l'équipe. Je pense que si tu lis beaucoup sur lui, tu t'aperçois que le monsieur, c'est un CEO. Je pense que toutes les tâches qu'il fait sont très, très définies. Tout le monde dans l'organisation, il sait chaque personne, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est très, très bien défini. Je pense que c'est un motivateur d'une certaine manière. Je pense qu'il va jouer de la carte du négligé souvent ou qu'il a des choses à prouver. Je pense que c'est un point de vue football. C'est un gars qui c'est peut-être le coach. On dit souvent, je suis pas un gars qui aime ça d'utiliser le terme de génie, mais c'est un gars qui pense à tout. J'ai l'opportunité de connaître du monde qui ont travaillé pour lui. Ils me disent qu'il arrive le samedi, on va gagner pour telle raison, puis on va perdre si on fait pas ça. Puis il est carrément dans le mille. Je pense qu'il gère bien ses effectifs. Il sait quand est-ce se départir de certains joueurs dans un certain temps ou juste avant qu'ils soient quasiment au bout du rouleau où on s'en débarrasser. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec Tom Brady avec ça, mais si tu regardes les Wes Walker, les Lawyer Mallory et compagnie, ils ont échangé des bons joueurs, mais ils restaient genre peut-être une saison ailleurs. Donc je trouve qu'il c'est un bon coach pour prévoir qu'est-ce qui reste dans... De potentiel pour ces joueurs.
9 présences au Super Bowl pour le duo Brady-Belichick. Tu pensais-tu, quand tu as commencé à coacher le Rouge et Or, il y a plus d'une vingtaine d'années, tu pensais-tu voir ça, Glenn?
Honnêtement, non. Je pense surtout qu'avec tout ce qui est passé au niveau du marché des agents libres, de pouvoir de garder une constance comme ça, je pensais vraiment pas que ça pouvait se faire.
Est-ce que, dans le cadre de tes fonctions, dans la saison de football, est-ce que tu... arrive à t'inspirer de Bill Belichick?
Honnêtement, c'est peut-être pas dans la saison, parce que dans la saison, on est très occupé, on voit pas beaucoup de coachs. Parce qu'ici, on voit pas beaucoup de matchs de la NFL point. Donc souvent, c'est souvent que tu vas voir des choses, que tu vas regarder des matchs ou t'entends parler des choses durant le printemps. Et je pense que c'est vrai qu'il y a des choses que tu peux prendre de ça. Comme je pense, une chose qui fait très, très bien défensivement, c'est d'enlever les plus grosses menaces. Donc, je pense qu'avec Marc Fortier, on parle souvent de ça, de pouvoir enlever le pain et le beurre d'une certaine équipe sans enlever tout, mais on va enlever ce qu'ils font le mieux. Si tu regardes la semaine passée, Kansas City, je pense qu'ils ont limité Hill à une réception et Kelsey 3 passes. Donc, quelque part, tu vois qu'ils vont enlever certaines choses. Ils ont enlevé de manière que le carrière pouvait se déplacer. Donc, vraiment, c'est une chose qu'on apprend de lui. Je pense comment il gère ses affaires. Je pense que de définir les rôles de chaque individu dans son équipe, surtout les joueurs, dans notre cas, c'est plus ça. De définir les rôles, de s'assurer que le monde accepte les rôles et ils vont faire leur job. Donc, le bon vieux slogan « Do your job », c'est quelque part, je pense que ce que je comprends, c'est qu'il va définir le rôle, il va demander si tu l'acceptes. Si tu l'acceptes, mais là, il faut que tu le fasses. Donc, oui, on s'inspire de lui.
La dynastie des Pats versus la domination du Rouge et Or, on peut tracer un lien quand même. Monsieur Kraft qui donne confiance à Bill Belichick, c'est comme un Jacques Tanguay qui donne confiance à Glenn Constantin.
Ben, je pense que c'est gros comme comparaison, mais en effet, on peut tirer des liens. En effet, je pense que M. Tanguay, comme M. Kraft, c'est du monde qui veulent performer, mais avant tout, je pense qu'ils vont prendre soin de leur monde, s'assurer qu'ils sont bien traités. Ils vont leur donner confiance. Quand on prend une décision ici, souvent, souvent on va poser des questions, mais ils ne questionnent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a vraiment un élément de confiance de ce côté-là. Et moi, je pense que c'est plaisant de travailler pour du monde comme ça. Et je pense que ça inspire à faire des grandes choses.
OK. L'autre côté, Sean McVay, 33 ans. On dirait, nous, on le connaît pas, puis on dirige pas une équipe de football comme toi, mais il a l'air d'une bébite. C'est quoi ta lecture de Sean McVay?
Écoute, réellement, moi, je le connais pas beaucoup. C'est un gars qui est arrivé un peu sur la scène un peu rapidement. On sait que c'est un gars qui est quand même... qu'est-ce que je sais? Tout le monde le considère un très, très bon joueur de football, innovateur. C'est un gars qui a une mémoire photographique. Je sais pas si tu savais, il se rappelle des jeux. Tu peux dire, à 6 minutes, tel game, il se rappelle de tout. Donc, souvent, on dit qu'on apprend plus de nos erreurs. Lui, je pense que c'est ça qu'il dit souvent. C'est un gars qui est dynamique. Je pense qu'il y a eu un mouvement dans la NFL où, avant, si t'avais pas 50 ans, tu pouvais pas y accéder. À cette heure, si t'as 40 ans, t'es vieux. Donc, puis ça, je pense que tu l'as fait, mais Jean McVay est vraiment présent. Je pense que Avant, tu étais un disciple de Bill Walsh, tu avais une job, de Belichick, tu avais une job. Maintenant, si tu es un disciple de Sean McVay, tu vas avoir un emploi. C'est un gars qui est très dynamique, très intelligent. Je pense qu'il travaille. Je pense que lui aussi étrangement, il se parle beaucoup, ces deux-là, Belichick et McVay. Et je pense qu'il fait un peu la même affaire. Je pense qu'il y a un succès qui se fait, que tu regardes la différence entre McVay et Snead, leur directeur gérant, qui était avec avant l'ancien entraîneur, il n'était pas nécessairement de la même chimie. Je pense que ça, je pense que j'ai pu comprendre, c'est qu'il va vraiment déterminer qu'est-ce qu'il veut comme personne. Je pense qu'ils ont misé beaucoup, c'est un très bon coach, mais ils ont misé beaucoup sur le marché d'agents libres, parce que s'ils ne gagnent pas cette année, ils vont avoir des difficultés au niveau de la masse salariale. Ça prenait des demi-coins, il y en a deux très bons, deux demi-coins, ils ont cherché Donovan Sue au centre de défensive. Et ça, ils ont bâti des équipes, en tout cas, à son image. Et je pense qu'il faut que tu bâtisses son équipe pour battre les meilleurs. Et je pense qu'ils ont une bonne recette pour moi.
Tu disais, Belichick et McVay se parlent régulièrement. Ils se textent après les matchs. Est-ce que Bill Belichick ne doit pas texter à tous les coachs de la NFL? Est-ce que ça assure, Glenn, que Sean McVay va avoir une longue carrière, étant donné que Belichick a un respect pour lui?
Mais je pense que oui, je pense que c'est. Je pense pas que Belichick va perdre son temps avec deux entraîneurs. Je pense qu'il voit le potentiel, il voit qu'un grand coach en devenir s'il n'est pas déjà. Et je pense que c'est une marque de respect et je pense qu'en effet, je pense que McVay va être si tout continue à aller comme il veut. Quoi, je ne peux pas dire que c'est un feu de paille, mais ça fait juste comme vraiment 2 ans. Mais les choses vont très, très bien. Moi, où ce que j'ai mis appréhension, c'est au niveau du marché des gens libres. Quand tu donnes 15 millions à Donovan Sue et d'autres beaucoup d'argent aux deux demi-coins, il faut que tu gagnes et ensuite, il faut que tu sois capable de gérer ça pour l'année prochaine. Chose qui m'émerveille tout le temps dans le cas de Belichick, où et c'est pas la plus grosse masse salariale, c'est pas le plus gros coaching staff, au contraire, mais ils sont capables d'avoir des joueurs de permettre de plan B et de performer à un haut niveau. Sean McVay, premièrement, ils ont réussi à créer quelque chose de bien avec des joueurs de plan A, mais ce qu'ils vont pouvoir les garder, puis souvent, quand tu gagnes le Super Bowl, tu passes à la caisse. Donc les joueurs vont pas aller chercher de l'argent ailleurs.
OK. C'est quoi l'importance de l'entraîneur-chef dans le match de dimanche?
Je pense que la grosse partie, c'est tous les plans de match. Tu as 2 semaines pour faire les plans de match. Donc, je pense que le coach a réussi à bien s'asseoir avec ses coordonnateurs puis dire qu'est-ce qu'on veut faire comme tel. Je pense que la grosse job, c'est de s'assurer que ce match-là est un match comme les autres. Puis qu'il n'y ait pas un match comme les autres. Je pense qu'il y a un coup que le botté a commencé. Je pense que ça a devenu un match pour les autres. Je pense que les gens me disent des fois qu'ils n'entendent plus rien, les joueurs n'entendent plus rien. Je pense qu'il faut que tu gères ça, tes émotions de ton groupe. Moi, je prends l'exemple des Falcons. Les Falcons avaient gagné, je pense, par 25 points à la demi. Et ils sont auto-détruits. Je pense que oui, les Patriots ont très bien fait, mais je pense que les autres n'ont pas bien géré la demi. Comment les choses, j'en regarde. J'ai la chance d'avoir mon ancien coloc, universitaire, coach et receveur pour les Patriots. Il me dit que cette semaine, les Maroon 5 jouent partout dans leur vestiaire. Parce que la demi, ça va être Maroon 5. Les joueurs vont la pratique est gérée où ce que ils vont finir la pratique en force, ils vont prendre un break d'une demi-heure et vont recommencer en force. Ils essaient de recréer la demi. Puis quand tu recommences à la demi, c'est des jeux très, très importants au début de la demi. Donc, comment que tu gères les émotions? Comment tu gères? Les gars vont te déshabiller, prendre une douche, comme s'ils commenceraient un deuxième match. Toutes des choses que tu penses pas. Puis tu regardes un peu la première fois que j'avais aux Falcons. Ils ont manqué d'énergie. Donc, ils ont peut-être même mal géré leurs choses. Puis ça a ultimement pas juste à cause de ça, mais ultimement, ils ont perdu le match. Mais je pense que c'est de bien penser, penser aux petites distractions, voyez, s'assurer que ça ne devient pas une grosse distraction et de gérer les émotions des joueurs pour tout le match.
Glenn, parlons-en de ton chum Chad qui est dans l'équipe d'entraîneur des Pats. Est-ce que des fois, tu regardes ton parcours, tu regardes le sien, puis tu te dis, Colin, je pourrais peut-être être dans la NFL?
Hey, écoute, je suis très content d'être ici. C'est que c'est un autre domaine. Je pense que certains que j'ai pris des décisions dans ma carrière, ou ce que je sais, encore une fois, c'est pas où j'ai pris cette décision-là ou un autre qui assurait que je serais dans la NFL. C'est un bon ami, c'est un très bon coach de football. Il va être un entraîneur-chef dans la NFL, moi, je pense, dans les prochains 5 à 10 ans. Lui vient d'une famille de football. Son père était physio pour l'équipe de la NFL. Il était très proche de la famille Hilton avec qui j'étais à Houston. Il est très bon coach. Il a eu des belles opportunités. Moi, j'ai choisi de venir au Canada. Puis j'ai pas fait une croix là-dessus. Mais j'avais tout le temps dit, quand je reviens à 5 ans, j'avais dit que mon rêve, c'était dans la NFL à 50 ans. Je suis rendu à 53 ans. Je suis ici, je suis heureux. Mais quand je suis parti de là-bas, j'ai décidé que j'allais faire Québec, la meilleure ville de football au Canada. Ça, je pense qu'on a fait un bon bout de chemin là-dessus. Très, très fier de ça. Écoute, le destin, ça peut faire des différentes choses. Chad m'a dit que s'il devait entrer leur chef, qu'il allait m'engager. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça serait une belle série soupçonnée pour ma carrière. Très heureux d'être ici. Certain que on était trois de coloc. L'autre coloc est l'entraîneur-chef des Trojans de USC. Son frère est maintenant entraîneur-chef à Western Kentucky. Les gars ont tous eu du cheminement, on est tous fiers de ça. Eux sont comme un peu autant que moi, j'étais émerveillé de leur parcours. Eux, ils disent, comment tu fais pour gagner comme ça tout le temps, tu sais, puis j'avais nos rébis au Browns, tu sais, ton nom sort dans nos réunions parce que gagner, c'est gagner. Puis ils disent, peu importe le niveau que tu gagnes, avec la fréquence que tu gagnes, il y a quelque chose qu'on fait ici à Laval qui est quand même bien, ça les intrigue beaucoup. Je dis tout le temps, pour moi, c'est la différence entre eux autres, c'est zéro à la fin du salaire. Moi, on le met en avant, non pas à la fin. Mais honnêtement, on est tous fiers de nos parcours. C'est vrai que la NFL, c'est quand même le summum de tout et très fiers de ces gars-là.
On a dévié sur ton parcours, on reviendra au Super Bowl. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Glenn, il n'y a plus rien à prouver dans le football ».
Écoute, c'est vrai que prouver, c'est qu'il y a certains créneaux que je peux accéder ou pas accéder. Les Canadiens, c'est une... Ça, je pense que ça prend des bons coachs, ça prend un coach différent, c'est pas pour moi. Je trouve que c'est géré par beaucoup des Américains, c'est drivé par les Américains.
Mais Glenn, t'as assurément eu des offres dans les dernières années, là.
Honnêtement, j'en ai beaucoup moins, quoi. J'ai refusé beaucoup. Je pense qu'ils disent qu'ils ne viendront pas anyways. Point de vue qualité de vie, point de vue contrôle de qu'est-ce qu'on peut faire comme équipe ici, point de vue salaire, honnêtement, la différence n'est pas énorme. C'est-tu mieux de faire un petit peu plus d'argent pour un contrat de 2 ans puis que t'es terminé puis de laisser tomber quelque chose que t'as bâti de A à Z? Ça m'intéresse pas. Donc ça, les offres comme telles, j'en ai de moins en moins parce que j'ai bénéficié beaucoup dans la CFL. L'NCA, je l'ai fait. Je pourrais encore le refaire si je voudrais. Mais c'est pas une affaire d'un bon coach. L'NCA, c'est un très bon coach aussi, mais c'est qu'est-ce que tu peux apporter au niveau recrutement. Il faut que tu aies une expertise ou une mainmise sur un territoire. Par exemple, si tu recrutes, le Texas, la Louisiane, t'es très en demande. Si tu recrutes le Vermont, mais t'es moins en demande. Donc, c'est l'importance du recrutement est hyper important. Donc, je pense que c'est important de comprendre que c'est comme un vendeur. Quand tu travailles pour une compagnie, si tu engages, il faut que tu aies des résultats tout de suite. Donc, la réalité, tu peux pas, ils ne t'engageront pas. C'est des jobs de contrat de 2 à 3 ans. Ils te laisseront pas développer un territoire de recrutement. Il faut que, comme un chose d'en vente pour toi à tes clients. Donc, il faut que tu sois efficace tout de suite dans le recrutement. Donc, je suis un peu moins alléchant pour l'NCA, comme je l'étais avant, comme souvent, quand j'étais au Texas, je l'avais vendu comme le Québec et les Toronto comme une grosse valeur pour le recrutement. Et je pense que c'était quand même un bon jeune coach, mais j'apportais à la table du recrutement. Donc, j'avais amené à peu près sur les 2 ans, j'étais là, j'avais à peu près 5 à 6 joueurs, qui quand même beaucoup, des joueurs qui ont eu des belles carrières. Donc, ça m'a aidé beaucoup. La NFL, je pense que c'est plus accessible maintenant parce que même des fois, j'essaie d'aider des coachs que je connais à avoir des jobs dans la NFL, mais pour moi, c'était plus difficile parce que, comme je disais, avant 50 ans, c'était le marché où c'était la maturité. Maintenant, c'est 50 ans, t'es comme quasiment un peu plus vieux dans la NFL. C'est comme une vague, il y a eu aussi le mouvement aussi qui fallait engager des minorités visibles. Donc, ça, c'est important, puis ça l'est encore. Donc, c'est des choses qui font rendre ça difficile. Écoute, moi, si ma carrière s'est terminée à Laval, écoute, je pense que j'ai rempli mon mandat. On a bâti un programme de qualité. Le football dans la région de Québec et dans la province est devenu très, très respecté. Donc, je pense que j'ai fait ma contribution pour le sport, puis je continue à le faire. J'adore qu'est-ce que je fais. J'adore voir les joueurs gradués, de gagner les gradués autant du point de vue académique, autant qu'ils soient des avocats, des médecins, que des gars dans les Canadiennes ou dans le deuxième dans la NFL. Donc, je suis très satisfait où on est.
Tu parles de recrutement. Est-ce que l'importance pour le recrutement, pour le rougeur, est-ce que le joueur, il regarde tout le temps les victoires que vous avez eues dans les dernières années? Est-ce qu'il vient à Laval pour gagner?
Je pense que la première, je pense que c'est ça qui frappe à l'œil au début, qu'on va gagner le championnat. Moi, qu'est-ce qu'on vend, c'est le développement. C'est comme si, encore une fois, j'ai une comparaison de garder. On est comme un peu comme à Alabama, comme je parlais des joueurs hier. C'est certain que si tu as 10 joueurs de première année qui jouent partant, mais ton programme n'est pas vraiment fort. Donc, quelque part, on mise sur le développement de l'individu, de l'étudiant et du joueur de football. C'est important pour moi que c'est ça, un problème universitaire. Je pense que c'est la ligne directrice qu'on a ici au PEPS, ici au Rougeard, c'est de développer des étudiants athlètes sur les trois phases de ça. Quand le kid vient visiter ici, il s'aperçoit que tu vas avoir de l'aide au niveau académique, en musculation, en course, au football. Donc, je pense que quand tu peux adhérer à ça pendant 3-4 ans, tu vas avoir du succès sur les trois plans. Ça, c'est dans notre dessert, on a un dicton qui dit okay, « Those who stay will be champions ». Donc, pour nous, c'est que, oui, des fois, il faut que tu persévères, puis des fois, c'est difficile, mais si tu persévères, tu vas réussir.
OK. Anthony Auclair joue dans la NFL. Tu as probablement dirigé des joueurs plus dominants au niveau universitaire. Pourquoi lui dans la NFL, puis il y en a d'autres qui le sont pas?
Bien, première chose, le crédit lui revient beaucoup. C'est vrai qu'il a travaillé très, très fort. Il était vraiment discipliné. Il a fait beaucoup de choses. Il avait un plan. Je pense qu'il avait un plan personnel, des objectifs personnels qu'il a su garder pour lui, puis pour réussir de réussir ses plans personnels à l'intérieur d'un but collectif. C'est vraiment ce qu'il a bien fait. Il fait beaucoup d'extras. Il faut comprendre que ce gars, c'est un carrière. Hein. C'est à la base, il était carrière ici. On l'a pas recruté. Moi, je me rappelle au début, on l'a recruté comme carrière. J'ai dit, écoute, je l'ai dit. J'avais dit carrément, t'es une priorité pour moi, mais pas à position de carrière. Puis il était offusqué, ça. Puis il y a comme une coupe dans la communication pendant une couple de semaines. Mm-hmm. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu peux jouer tight end, qui est une position qu'on ne voit pas beaucoup au Canada. C'est pas utilisé. C'est pour ça que c'est quand les dépisteurs appellent, ils disent, bon, il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais parce qu'on n'utilise pas ça souvent au Canada. Nous, on a une équipe qui en utilise, mais c'est dans certaines occasions que Justin va utiliser ces choses-là, donc ça va le moins utiliser. Donc, j'avais dit, tu vas sortir d'ici, il était 6'5", 2'25". Je dis, tu vas sortir d'ici à 2'60". Puis, il m'avait dit une fois, il dit, Glenn, l'année passée, ou à son année de repêchage, il m'a dit, Glenn, tu m'avais dit ça, je suis sorti à 2'56". Je dis, ben, j'ai pas, je pense qu'il y avait le frame. Je pense que les gars, tu sais, Guillaume Rioux, Mathieu, ont fait une très, très bonne job pour le développer. Mais c'est un gars qui n'est pas nécessairement assez. Il y a des joueurs comme nous, souvent dans tous les autres sports, des fois, ce sont des meilleurs joueurs collégiales qui sont des pros et des joueurs qui sont moins dominants au niveau collégial qui deviennent ça, des meilleurs professionnels. Ils sont plus de disposition à être des meilleurs professionnels que d'autres.
Si Mathieu Bette joue dans la NFL, ça va être grâce à quoi? S'il ne joue pas dans la NFL, ça va être à cause de quoi?
OK. S'il joue dans la NFL, je pense que c'est à cause de ses capacités de mettre la pression sur le corps arrière. Il y a un pass rush extraordinaire, il y a un départ extraordinaire, il y a des chemins de direction très, très vifs. Et la plus grosse affaire qu'il va faire, c'est que c'est un gars qui, on dit le mot moteur, il y a un moteur, il arrête jamais, il est tout le temps, son moteur est en train de full révolution tout le temps. Ça, c'est remarqué par tous les niveaux ce qu'il a joué au football. Je pense que pour moi, c'est sa capacité de jouer. C'est ça qui va le rendre. C'est un gars qui va plutôt jouer ailier défensif ou un secondaire qui met la pression. Ça va être sa marque de commerce, je crois. Puis je pense qu'il n'a pas été utilisé ici sur les unités spéciales à cause que au football canadien, les équipes, on peut quasiment mettre un autre 25 jeux à cause des bottes de dégagement. Moi, je ne voulais pas l'utiliser. Je voulais garder frais pour la défensive. Mais je sais qu'il peut faire très, très bien ce côté-là. C'est un gars qui peut bloquer les bottes comme il a vraiment un bon acte pour faire ça. Je pense qu'il peut faire ça. Moi, je pense que ce qu'il peut, il peut avoir des difficultés, c'est cette capacité de jouer au sol. Je pense qu'il peut prendre les jeux au sol. Je pense qu'il s'est amélioré beaucoup. Mais c'est une affaire qu'il n'a peut-être pas le poids et la force physique encore, mais encore une fois, c'est d'avoir une opportunité. Puis tu regardes Anthony sorti d'ici à 2,50, 2,60. Là, il est rendu à 2,70. Donc, il y a eu une progression. Quand les gars font que ça, ils font que s'entraîner, bien s'alimenter, les gars vont encore progresser. Donc, je pense qu'il peut s'améliorer ce coup-là, mais c'est vraiment ma seule appréhension, ce serait comment qu'il peut contrer les joueurs au sol. Parce que si tu ne peux pas contrer les joueurs au sol, tu deviens un joueur de situation. Donc, tu embarques sur 3e et 10 ou une seconde passe. Ça, c'est pas les équipes qui ont tout le temps de cette mentalité-là ou de l'argent pour se permettre ça.
Tony Romo, il a un peu moins de deux semaines, calait les jeux d'avance à la télé. T'as vu ça? Tout le monde reconnaît qu'il est excellent comme analyste. Quand Glenn Constantin regarde un match, comme celui de dimanche, le Super Bowl, est-ce que Glenn essaie de deviner les jeux d'avance?
Honnêtement, ça fait comme j'ai pu voir, ça fait deux, trois semaines que je peux voir les Patriots jouer, surtout les Patriots, pour ces affinités-là. Là, je peux voir des choses par le grouping de personnel quand il y a un back deux tight end, ou tu commences à avoir une meilleure idée. Au début, il y a trois semaines, je ne pouvais rien dire, ou je n'ai pas assez vu de matchs, mais là, tu commences à avoir des tendances, puis quand on a des matchs avec du monde, souvent, ça qu'ils me disent, c'est comme ça, tu sais ça, je dis, parce que c'est ça. C'est ça. C'est, on voit des choses, puis on est habitué, puis comme je disais, peut-être les quatre derniers matchs de Patriots, j'ai pu les voir, donc, mais c'est une équipe qui change beaucoup, c'est une équipe qui va changer certaines affaires, comme qu'est-ce qu'on fait contre les Chargers, je l'ai reconnu en deuxième demi un petit peu, les coupes de pression dans les matchs, parce qu'ils ont fait des couvertures zéro, donc ils ont blitzé d'une certaine manière, là, je disais, ah, ça, j'ai vu ça contre les Chargers, mais sont durs à plaisir.
Glenn, est-ce que c'est encore vrai qu'on donne des spectacles avec l'attaque puis on gagne des championnats avec la défensive?
Je pense que je pense que oui. Si tu regardes les Kansas City, c'est un peu ça. Ils peuvent scorer de multiples manières, mais ultimement, c'est un peu controversé. Si tu regardes le puis c'est tellement vrai au niveau de le overtime. Tout le monde dit ah, il a pas eu la chance, mais les règles sont faites que t'as juste arrêté. Donc, moi, je pense que c'est la défensive a encore un gros rôle à jouer. Puis moi, je vous dirais que les Rams, ils vont gagner. Mais s'ils gagnent ce match-là, ça va être à cause de leur défensive.
OK, parlons-en de la réglementation, de la prolongation. T'es pas outré de ça?
Bien, je trouve ça plate un petit peu. Moi, je pense qu'il devrait peut-être avoir des règlements pour la saison régulière et les playoffs. Parce que je comprends, c'est fait comme ça, probablement à cause des blessures, si les matchs se prolongent longtemps. Écoute, si tu joues un Monday night puis tu es en overtime pendant une heure, ben c'est dangereux. C'est physiquement difficile puis peut-être dangereux pour les joueurs, mais ça va hypothéquer ta semaine après ça. Donc, ça, je peux comprendre cette partie-là. Mais dans les playoffs, on joue le tout pour le tout. Je pense qu'il devrait y avoir un autre format.
Les Rams contre les Pats. Tu es allé à la Coupe Vanier avec des jeunes carrières. Est-ce que le fait que Jared Goff soit jamais allé, ça te fait peur pour lui?
Moi, oui, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur aussi. Ben, je ne prenais pas pour Kansas City, mais je trouvais que Kansas City avait le même problème. Il y avait un jeune carrière. Souvent, je pense pas qu'il était dépassé par les événements, mais je pense qu'il s'est fait truquer à l'NFL par des bons stratèges défensifs. Il y a eu une coupe de fer où c'était pas nécessairement des interceptions, mais des opportunités de troisième et 10 où il s'est débarrassé du ballon, où il avait fait une mauvaise lecture. Ça peut jouer en ligne de compte quand tu joues contre un carrière d'un coach de cette trempe-là où il y a beaucoup de vécu. Je pense que ça peut être problématique pour un jeune carrière.
Tom Brady, est-ce que dans 30 ans, si on se reparle de football, ça va avoir été le carrière qui va avoir, sans dire révolutionné, marqué la NFL?
Moi, je pense que oui. Je pense que, honnêtement, qu'est-ce qui m'impressionne de lui? C'est pas les statistiques, mais c'est la constance. La seule année qu'il a eu une mauvaise année, c'est pété le genou. Le reste de l'année, il était tout le temps dans les top. Il y a eu des meilleurs que lui, mais il était tout le temps dans les top 2 ou 3 carrières qui est exceptionnel. Il a perdu une coupe de Super Bowl, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est sa faute. Mais c'est un gars que je peux comprendre aussi. C'est un gars qui travaille énormément fort, surtout. Chad me dit que dans l'avion, lui a sa propre ordinateur. Quand tout le monde joue aux cartes dans l'avion, lui, il est en train de regarder le match qu'il vient de jouer. Quand tu pratiques, je suis au entraînement, puis j'ai regardé les caméras, puis je dis, mais Chad, pourquoi celle-là? Il dit, elle est tout le temps sur Tom Brady, parce qu'il exige une caméra tout le temps sur lui. Ses mécaniques sont très importantes pour lui. Il est spécial, comme il est très exigeant vers lui. Donc, le site de travail, c'est pas pour rien qu'il est comme ça. Mais de soutenir, tu sais, à quelque part, tu te dis, il est humain, il va avoir une complaisance à quelque part. Mais je pense que la journée qui va être complaisante, c'est la journée qui va prendre sa retraite. Mais moi, c'est la constance. C'est la première journée, quand il dit au propriétaire, c'est le meilleur choix que vous avez fait de me repêcher. Jusqu'à aujourd'hui, c'est fantastique.
Glenn, tu diriges des jeunes joueurs universitaires. Les joueurs de hockey qui jouent junior majeur ont comme idole McDavid, Crosby et Matthews. Les joueurs que tu diriges chez le Rouge et Or, leur idole dans la NFL, c'est qui? Quand vous parlez de NFL, vous parlez de qui?
Ça dépend des joueurs, ça dépend des positions. Comme je parle de Mathieu Betts, je peux en parler de Von Miller, de Khalil Mack. Ils ont chacun leurs différents modèles.
Le match de dimanche, la NFL, évidemment, je pense que leur souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur d'arbitrage. Si on revient sur l'erreur d'arbitrage, toi, tu as dit tantôt, je travaille fort pour la région, je travaille pas fort pour le football. Est-ce que le football en général, pas juste la NFL, est-ce que le football en général a été entaché par cette punition non appelée?
Ben, je pense que je pense que oui. Je pense qu'ils ont les ressources, qu'ils ont la technologie pour rectifier les choses comme ça. Tu as sûrement entendu que dernièrement, ils ont la composition de cette équipe d'entraîneurs l'équipe d'arbitres était composée de trois gars de la Californie. Donc, pour moi, je pense pas ça, mais quelque part, en arrière de la tête, tu dis, comment on est rendu? Tu peux faire n'importe quoi. Tu as la technologie, tu as l'argent pour faire qu'est-ce que tu veux. Il y a 32 caméras par match juste en partant pour avoir tes feeds. Tu as tout ça, puis qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux contrôler la partie humaine, mais la composition des arbitres. Même si c'est pas ça, la réalité, c'est que tu laisses une perception que peut-être... Puis il y a eu toujours au basketball pour une couple d'années, donc on n'est pas à l'abri de ça. Je pense que ça aide pas notre sport, puis ils ont tous les moyens et toutes les ressources pour faire mieux que ça.
Glenn, évidemment, j'ai demandé à tout le monde toute la semaine une prédiction pour le Super Bowl. Qu'est-ce qui va arriver dimanche? Qui va gagner, puis ça va être quoi le score?
Okay, je vais prendre pour les Patriots, que je reste honnête avec moi-même. Moi, je pense à une game qui pourrait... Il y a deux... Pas encore sûr si ça va être une game qui va sortir beaucoup de points ou moins de points. Moi, j'irais peut-être dans le coin d'une affaire comme genre 31-34 pour les Patriots.
34-31 pour les Pats. OK. Un gros merci, Glenn.
Un plaisir, merci.